Je procède à une espèce de chiasme sur des titres de Julia et j'appelle ce propos donc le langage poétique ou l'avenir d'une révolution. Kristeva, linguiste, un temps chomskienne, benvenistienne toujours, Kristeva, théoricienne, tour à tour bartinienne, telkelienne, bartésienne, post-structuraliste avant l'heure. Kristeva, psychanalyste, freudienne, kleinienne, winnicottienne et lacanienne, et cherchant depuis les pouvoirs de l'horreur, pardon. Ça va. Il ne faut jamais faire des lapsus dans les conférences. Alors, devant les psys, c'est foutu. Voilà. Donc, au point même qu'il faudrait les préparer, comme ça on se dit, ouais. Bon. En 83, jusqu'à cet incroyable besoin de croire 2007, donc cherchant à démêler les fondements pulsionnels du politique, mais aussi, bien sûr, Kristeva critique, proustienne, colettienne, Kristeva romancière et mémorialiste, féministe et historienne du féminisme, Kristeva engagée, républicaine et universaliste, toujours sur le front, autant de figures que les spécialistes de la vie littéraire intellectuelle française et européenne se complaisent peut-être à distinguer chez Julia. Ils passeront son œuvre au crible, à la recherche de césures et de patrons. Ils procéderont à la généalogie et au tri des lignées. Hegel, par exemple, pour la tension entre le concept et l'histoire. Bakhtin, pour le dialogisme et l'intertextualité. Lacan, pour la constitution du sujet dans la chaîne des signifiants, entre science et philosophie. Chomsky, au départ, entre linguistique et politique. Barthes, bien sûr. Et, comme je le disais, Benveniste, toujours entre sens et expression. Procédant par secteur et jugeant, hélas comme notre époque, le sérieux à l'aune de la spécialisation, ils s'exposeront, puisqu'ils fragmentent, à manquer ce qui précisément fait l'unité et la vigueur d'une pensée et doit répondre au contraire à ce qu'une pareille œuvre comporte de permanent, d'essentiel et de fécond. Or, il me semble qu'il n'est pas impossible de chercher cette unité et cette vigueur dans une réflexion sur l'expérience du sujet dans la langue. Sur, pour citer un article de Benveniste, consacré aux instances de l'interlocution, publié en 1958, sur donc la subjectivité dans le langage, étrange formule, et par lequel on peut le montrer, Benveniste tentait de contredire le diagnostic de Hegel sur la possibilité de dire le maintenant, l'ici et le ceci. Pour déployer cette réflexion et en montrer, je le redis, la fécondité pour aujourd'hui, je voudrais en ressaisir la formulation première dans un moment que j'isole, compris entre 1967 et 1974, je ne vais pas vous faire le coup du 74, et qui correspond aux articles publiés dans Sémiotiké, recherche pour une sémanalyse, ensemble de 8 articles, publiés à grand fracas en 1969 et très suivis par des commentaires, notamment dans la toute jeune revue Langage. Le langage, cet inconnu, une initiation à la linguistique, publié en 69 aussi. Et bien sûr, objet principal de mon propos, la révolution du langage poétique, l'avant-garde à la fin du 19e siècle, Lautréamont et Mallarmé, publié en 74 au Seuil et republié plus récemment avec le sous-titre, alors que dans la première édition, j'insiste, il n'y avait pas le sous-titre. Il n'y avait pas Mallarmé, l'autre amont. De ces trois livres, je ne proposerai pas l'histoire, parce que ces histoires existent. Julia elle-même les a écrites dans un registre autobiographique. Je vous renvoie à « Je me voyage », mémoire, c'est page 61 et suivante. Ou dans un registre plus fictionnel, Les Samouraïs. Et Philippe Forest, dans un livre que je tiens véritablement pour un chef-d'œuvre d'histoire intellectuelle, en a offert un excellent tableau synthétique dans Histoire de tel quel, il est là-bas, il rougit, page 249 et suivante. Non, je voudrais ici, pour vous, cet après-midi, me réclamer plutôt de l'exigence de Kant quand il réclame, c'est dans la méthodologie de la critique de la raison pure, une histoire philosophique de la philosophie, c'est-à-dire une histoire, dit-il, qui permettrait, je le cite, de comprendre ce qui a engagé les penseurs parmi les hommes et les femmes, donc, à travailler. À travailler, finit-il, sur le but et la fin des choses dans le monde. Il s'agit, en somme, dit-il, de comprendre d'où ils sont partis. C'est donc vers ce point de départ que je voudrais me tourner, de manière, on pourrait dire, si vous voulez, archéologique, pour faire sortir le tigre du fourré, selon la thèse sur l'histoire, la dixième thèse sur l'histoire de Benjamin. Comment procéder face à ces textes difficiles, souvent hérissés de toutes sortes de formalisations empruntées les unes aux mathématiques, que Julia connaissait de près, les autres à la linguistique chomskienne, d'autres aussi à l'appétit formulaire de Lacan. À ce moment-là de son parcours, Julia en appelait avec d'autres à une science de la littérature. Et si on veut suivre le lexique de Michel Foucault dans l'archéologie du savoir, on a l'impression qu'à l'époque, la discipline littéraire sautait les étapes de l'objectivation, c'est-à-dire la constitution de leur objet, pour aller très vite vers les seuils de ce que Foucault appelle l'épistémologisation et la formalisation. Je ne sais pas si ces seuils ont été franchis, mais ce qui est sûr, c'est qu'on est invité avec ces livres à une méditation sur ce que c'est que la littérature. Comment procéder face à ces textes d'une ambition enviable, puisqu'ils exigeaient de réconcilier, au nom d'un matérialisme plus rigoureusement hegélien que marxiste, la révolution de l'expression et l'expression de la révolution. Il me semble qu'on peut reconduire ce moment de votre œuvre et les livres qu'il exprime à une question unitaire que l'on peut ainsi formuler de manière assez sobre. Comment l'ordre du langage unit-il l'ordre de la vie et l'ordre de l'idéalité, ce que vous appelez parfois la transcendance du sens. Comment l'ordre du langage unit-il les ordres de la vie et celui de l'idéalité. En d'autres termes, comment l'élément de la signification réunit-il le transcendantal, que Julia emprunte à Husserl, ici, et la vie. À cette question devait répondre une discipline dont Julia Kristeva aura jeté les bases avant, me semble-t-il, de la poursuivre par d'autres moyens, donc je dis ça pour dire qu'elle ne l'a pas abandonné, la sémanalyse. Donc dans cet exposé, je voudrais reconduire la sémanalyse à ses concepts et à ses règles pour la confronter rapidement à une discipline jumelle, née à la même époque, d'insatisfaction rigoureusement analogue, la grammatologie de Derrida. Je rappelle que l'ouvrage, la grammatologie, comme l'écriture et la différence, paraît en 67. Donc c'est vraiment des œuvres jumelles. Il reste que la sémanalyse de Julia Kristeva trouve son terrain d'élection, c'est-à-dire le théâtre de ses opérations comme le champ de ses vérifications empiriques, dans un art d'expression singulier, le poème. Le poème saisi dans sa crise révolutionnaire, Mallarmé et Lautréamont. Il ne suffit pas alors de dire qu'il y a entre les thèses de la sémanalyse et la pratique poétique des affinités électives, la première modelant ses opérations sur celles de la seconde, qui s'éclairerait des acquis théoriques de la discipline. Il s'agit de dire, et c'est beaucoup plus, me semble-t-il, que la sémanalyse est sans doute la dernière grande théorie de la signification du XXe siècle qui ait pris le poème comme lieu de vérification. Je cite l'extraordinaire quatrième de couverture de la révolution du langage poétique. Refus du code social inscrit dès la structure de la langue, prise sur la substance folle qui en réclame la liberté, le langage poétique est ce lieu où la jouissance ne passe que par le code, que pour le transformer. Il introduit donc dans les structures linguistiques et la constitution du sujet parlant la négativité, la rupture. Lautréamont, je saute le paragraphe intermédiaire, sont les noms que porte à la fin du XIXe siècle cette expérience bouleversant la phonétique, donc ça c'est le côté phonagie, le lexique contre Saussure, la syntaxe, ça c'est Mallarmé avec Chomsky, les relations logiques, ça c'est Hegel, en même temps que l'ego transcendantal, ça c'est Husserl. Oui, ces livres, hein, ils nécessiteraient des éditions savantes avec tout un paratexte, hein, et des notes, parce qu'aujourd'hui, je pense que beaucoup de repères sont difficiles pour les étudiants. Dans la crise de l'État bourgeois, hein, c'est la conclusion de la quatrième, du droit paternel de la religion, ça renvoie à la troisième partie du livre, un sujet et son discours, qui se maintenaient depuis 2000 ans, s'effondrent. Je ne sais pas, Julia, si aujourd'hui vous proposez un quatrième comme ça, on vous le laisserait passer. Ah oui, 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 il me semble. Il est inutile de préciser que ce rêve fait naître chez beaucoup d'entre nous une forme de nostalgie qui peut donner lieu à une hypothèse historique. Le triple recul auquel on assiste aujourd'hui dans le monde de la culture, de la psychanalyse d'une part, attaquée de tous côtés, de la sémiotique diluée par les publicitaires au point de s'être liquéfiée, et de la poésie, est peut-être un phénomène unitaire dont on mesure mal la cohérence qu'éclairent les formules anticipatrices des préliminaires théoriques de la révolution du langage poétique. Julia Kristeva, dans ce triptyque, ne se contente pas de faire entrer la poésie dans le débat, elle en fait, je le redis, le site privilégié de la constitution, peut-être faudrait-il dire de la destitution langagière, du sujet parlant. Pour elle, le poème est comme une épreuve de vérité. Et ce sera aussi le cas d'ailleurs dans Soleil noir, Dépression et mélancolie, avec l'analyse des poèmes de Nerval. On est au plus loin, aux antipodes peut-être, d'une philosophie qui exalte les vertus du langage ordinaire, d'une critique littéraire qui voudrait que la littérature réparât les vivants à l'écart de l'histoire et des luttes sociales. La continuité entre le triptyque et les textes plus résolument tournés vers la psychanalyse ne fait pour moi aucun doute, et je vous renvoie à ce sujet à la forte introduction de Soleil noir. Je cite un petit passage. « La création littéraire est cette aventure du corps et des signes qui porte témoignage de l'affect, de la tristesse comme marque de la séparation et comme amorce de la dimension du symbole, de la joie comme marque du triomphe qui m'installe dans l'univers de l'artifice et du symbole que j'essaie de faire correspondre au mieux à mes expériences de la réalité. Elle transpose l'expérience littéraire, l'affect dans les rythmes, les signes et les formes, le sémiotique et le symbolique deviennent les marques communicables d'une réalité affective présente, sensible au lecteur. Je fais remarquer que le texte appelle alors en note, hein, quand il y a la mention du symbolique et du sémiotique, la distinction du sémiotique et du symbolique posée dans la révolution du langage poétique, hein, et vous renvoyez à deux passages décisifs du livre, hein, page 22 et 23, et page 41 et 42. Mais plutôt que céder au plaisir doux-amer de la nostalgie, poètes et poéticiens doivent se replonger dans ces ouvrages pour y ressourcer leurs concepts et certaines de leurs pratiques. C'est ce que je tenterai de faire en conclusion. Donc ce que je voudrais faire, hein, de manière un peu schématique, hein, c'est exposer le problème auquel, me semble-t-il, la révolution du langage poétique entend répondre, exposer les concepts et les règles qui sont déployés dans ce volume, hein, comparer ces règles à la grammatologie et tirer des leçons pour aujourd'hui. Je pars donc du problème auquel, me semble-t-il, le langage poétique, la révolution du langage poétique, entend répondre. C'est dans la structure de la présupposition que se déploie, dans la philosophie du langage et la linguistique d'après-guerre, l'entrelacs de l'être et du langage, du monde et de la parole, et de l'ontologie et de la logique. Quand je dis présupposé, hein, je désigne ici le sujet dans sa signification originelle, le subjectum, l'être qui, gisant avant tout et au fond, constitue ce sur quoi on parle et on dit, et qui à son tour ne peut être dit sur rien. La présupposition exprime donc la relation entre originaire, entre langage et être, entre nom et chose, et la présupposition première est que cette relation existe. La position d'un rapport entre langage et monde est la prestation constitutive du langage humain, comme la métaphysique le conçoit, ce qu'on appelle tout simplement l'ontologie, le fait que l'être se dise et que le dire se réfère à l'être. Toute position d'un principe absolu ou d'un au-delà de la pensée du langage doit se mesurer à ce caractère présupposant du langage. À partir du moment où il est toujours relation, il renvoie à un principe sans relation qu'il présuppose lui-même comme tel. Ce sont les mots de Mallarmé que vous citez. Le verbe est un principe qui se développe à travers la négation de tout principe. À savoir, à travers la transformation du principe en présupposé. Il y a donc quelque chose comme une nature paradoxale de la langue. Cet être a été construit à travers une analyse patiente et minutieuse de l'acte de parole, en supposant que parler ne se pourrait sans la présupposition d'une langue, et en supposant que les choses ont toujours été déjà nommées dans un système de signes qui se réfère aux choses, potentiellement et pas seulement actuellement. Pour prendre l'exemple de Saussure, hein, le mot « arbre » peut dénoter l'arbre dans un acte discursif, dans la mesure où l'on présuppose que le vocable « arbre » pris en lui-même signifie « arbre ». Le langage aurait donc la capacité de suspendre son pouvoir dénotatif dans le discours pour signifier les choses de manière purement virtuelle sous la forme du lexique. C'est là la différence entre langue et parole, entre sémiotique et sémantique, ou pour parler comme Frege, que vous citez aussi, entre sens et dénotation, qui scindent irrévocablement le langage en deux plans distincts qui cependant doivent bien communiquer. Il faut bien qu'il y ait une langue pour qu'on parle, et on ne peut pas parler hors d'un fond qui est celui de la langue. Le lien de cette scission linguistique avec la césure ontologique de la puissance et de l'acte, à travers laquelle Aristote divise et articule le plan de l'être, apparaît de manière plus évidente si on veut bien se rappeler que chez Platon, par exemple, dynamis veut dire signification. Le sens, donc, est une présupposition de la dénotation et la langue, une présupposition de l'acte. Mais c'est ici que tout se complique, et il me semble que c'est le point où la sémanalyse accomplit une espèce de progrès épistémologique. Sens et dénotation, langue et discours se trouvent en fait sur deux plans différents, et aucun passage ne semble conduire de l'un à l'autre. On ne peut parler que sur la supposition d'une langue, mais dire dans un discours ce qui dans la langue a été appelé et nommé, voilà qui est proprement impossible. Telle est l'opposition indépassable entre sémiotique et sémantique, sur laquelle sombre la dernière réflexion de Benveniste. Le monde, c'est un texte très célèbre que je cite, hein, le monde du signe est clos, du signe à la phrase, il n'y a pas transition, un hiatus, les sépare, hein. C'est ce texte tout à fait célèbre, hein, et qui brille comme un soleil noir, hein, de la linguistique, hein, qui est le texte que vous trouvez dans les problèmes de linguistique générale, hein, et qui s'intitule texte tout à fait, Sémiologie de la langue, dans lequel, hein, aux pages 64-65, hein, Benveniste considère, et c'est vraiment son échec, on ne peut pas dire autrement, hein, qu'il n'y a pas de lien entre sémantique et sémiotique. Donc on ne peut pas passer de l'un à l'autre. On pourrait dire d'ailleurs, hein, que cet échec, on le retrouve chez Wittgenstein dans le Tractatus, quand il écrit, hein, c'est la proposition 3, 221, « Je ne puis que nommer les objets, des signes en sont les représentants, je ne puis qu'en parler, que parler d'eux, et non les énoncer. D'accord ? Donc on ne peut pas, hein, c'est un problème kantien, on ne peut pas passer de la forme de la langue, hein, à quelque chose qui serait la correspondance interne, le sémantique. Il y a donc un quelque chose comme une faiblesse intrinsèque de ce couple sémantique-sémiotique. Et il me semble qu'une des questions centrales que s'est posée la réflexion sémanalytique de Julia Kristeva, c'est comment franchir ce divorce, ce hiatus entre le sémantique et le sémiotique. Car l'être, en effet, se donne dans le langage, mais le langage reste non dit dans ce qu'il dit et qu'il manifeste, et en conséquence, quand il se destine et se révèle pour les parlants, eh bien le langage disparaît à la faveur du sémantique. Et donc, hein, si on parle pour dire quelque chose de quelque chose, comme dit Aristote, hein, eh bien, au moment même où on le fait, eh bien, le langage, hein, doit faire triompher le sémantique sur le sémiotique. C'est pour ça, évidemment, que le langage a été traversé dès son origine par une série de scissions qui n'en déplaise à la zoosémiotique et à tous les gentils théoriciens du langage animal, aucun équivalent dans les langages animaux. C'est par exemple, hein, la fracture entre nom et discours, qui était claire pour les Grecs, hein, onoma et logos, chez Platon ou chez Aristote, pour les Romains, nominum impositio déclination chez Véron, mais aussi langue et parole chez Saussure, et sémiotique et sémantique chez Benveniste. La question, hein, c'est donc que cette scission des deux plans du langage entraîne comme conséquence toute une série d'apories. D'un côté, le langage ne peut venir à bout de son rapport avec le monde, qui a les noms pour condition. Et c'est pourquoi, dit Wittgenstein, hein, la signification des noms doit nous être expliquée parce que nous ne pouvons les comprendre. De l'autre, dans les mots de Benveniste, du plan sémiotique des noms au plan sémantique des propositions, il n'y a pas de passage, de telle sorte, hein, et c'est pour ça que Benveniste a été tellement ébranlé, hein, par Austin, hein, l'acte de parole finit par être impossible. La tâche spécifique, me semble-t-il, de la sémanalyse consiste donc à inventer un passage entre le sémiotique et le sémantique, des concepts pour penser ce passage et des règles pour les mettre à l'œuvre. Oui, c'est là, me semble-t-il, que se situent les deux solutions convergentes de la sémanalyse kristevienne et de la grammatologie derridienne. L'une et l'autre ont pris à bras le corps la scission du sémantique et de la sémiotique pour y répondre par les outils d'une théorie innovante. Que la sémanalyse ait eu pour but de surmonter la dichotomie introduite par le sémantique et le sémiotique ressort très clairement, je passe à l'analyse des concepts, donc le deuxième temps, de la révolution du langage poétique. Ces concepts, me semble-t-il, hein, sont au nombre de trois. Ils marchent comme une espèce de chaîne, hein, et si on les pratique bien, eh bien, il me semble qu'ils permettent justement de surmonter la différence, enfin, l'aporie de la rupture sémantique-sémiotique chez Benveniste. Ces trois concepts, hein, ce sont ceux de signifiance, de négativité et de pratique. Je les rappelle avant d'évoquer, hein, les règles qui les mettent en œuvre et les conséquences qui en découlent. Julia Kristeva le dit à la page 22, dans une page d'une grande densité. Le procès de signifiance est, dit-elle, la dialectique du sémiotique et du symbolique. Je cite, hein. Alors évidemment, chacune de ces citations, hein, mériterait qu'on y consacre un colloque entier, mais je ne sais pas si Edith serait d'accord. Disons, pour préciser, que les deux tendances que nous venons de mentionner désignent deux modalités de ce qui sera, pour nous, un même procès de la signifiance. Nous appellerons la première le sémiotique, en réservant à la seconde ce terme le symbolique. Ces deux modalités sont inséparables dans le procès de la signifiance. Et le procès de la signifiance, c'est la mise en œuvre, et là, Julia, c'est votre hegelianisme qui explose, enfin qui explose, qui vient à la surface, je veux dire, pas du tout qui se dissout, au contraire, qui se réalise. La signifiance, c'est précisément la manière dont, à travers un processus qui constitue le langage, et vous soulignez, et la dialectique de l'une et de l'autre, et la dialectique de l'une et de l'autre, donc, sont surmontées ce que j'appelais tout à l'heure la porie de Benveniste, c'est-à-dire la scission du sémantique et du sémiotique. Et vous dites plus loin, ne nous permettez, alors vous rappelez l'étymologie de sémiotique, et vous dites, tout ça, ça n'a aucune importance, si ça nous permettait de rattacher sémiotique à une modalité précise dans le processus de la signifiance. Ce processus de signifiance, donc comme processus dialectique surmontant l'aporie de la scission du sémiotique et du sémantique, trouve son équivalent dans le concept de productivité du texte ou d'engendrement de la formule. Donc, si on veut voir se déployer de manière, je dirais, autonome, pour ainsi dire, c'est-à-dire en le dégageant de l'écrin dans lequel ils sont sertis dans la révolution du grand langage poétique, il faut aller voir dans Sémiotiqué deux articles particuliers, un à mon avis tout à fait important, dont Jean-Claude Coquet, dans le résumé, enfin dans la note qu'il fait sur Sémiotiqué, dit au lecteur, ne commencez pas par ce texte, il est trop difficile, mais finissez par lui, il est décisif. C'est le texte qui s'appelle Productivité du texte. L'article s'appelle Productivité, dit texte. Et puis évidemment, un article qui a fait beaucoup parler de lui, L'engendrement de la formule. Dans Révolution du langage poétique, c'est page 67 et suivante. Je le redis, il s'agit de mettre le processus de signifiance au cœur de la dialectique du sémiotique et du sémantique. Et c'est ici, à une lecture attentive des pages 224 et 226 de Sémiotiqué, qu'il faudrait se livrer. J'en lis juste une formule qui me semble résumer. Julia écrit, les textes sont à envisager comme des formules de la signifiance dans la langue naturelle, comme des remaniements et des refontes successives du tissu de la langue, des formules qui occuperaient un lieu parallèle et autant sinon plus important pour la constitution et la transformation de l'histoire monumentale, etc. Donc lire les textes comme ces processus, comme le procès de signifiance à l'œuvre et disons auf Ebung, relève dialectique du sémiotique et du sémantique. Le deuxième concept sur lequel repose cet appareillage théorique de la sémanalyse qui permet de dépasser la porie, c'est la négativité. Sur la négativité, je vous renvoie aux pages 108 et 116 de la Révolution du langage poétique, qui sont des pages très importantes, 108-116, et aussi aux articles de Sémiotiqué, notamment à la page 220, qui explique ce que Julia entend par négativité. Je lis juste ce passage dans lequel Julia écrit, c'est page 219. Sans oublier que le texte présente un système de signes, la sémanalyse ouvre à l'intérieur de ce système une autre scène, celle que l'écran de la structure cache et qui est la signifiance comme opération dont la structure n'est qu'une retombée décalée. Donc la négativité, c'est d'abord la négativité du processus de négation de la structure. Il se trouve, et ce point est central ici, que, pour Julia Kristeva, le lieu même de négativité par lequel la sémanalyse relève sa supériorité à l'égard d'un structuralisme figé, c'est la poésie. C'est-à-dire que la poésie est le lieu de cette négativité en acte, dont Julia trouve deux, pour dire modèles, deux instances particulières, la négativité élocutoire de Mallarmé et la négativité dénotative et culturelle de Lautréamont. Alors ici, j'ouvre une piste, hein, mais je ne la développe pas. Hein. Il y a un lieu, évidemment, qui me paraît un lieu de débat qui me paraît très central. Peut-être qu'on pourra en parler avec les amis et collègues ici. Hein. C'est d'essayer de penser le rapport que ce concept de négativité, qui est très hégélien, hein, puisqu'il est vraiment posé dans les termes hégéliens, hein, entretient avec la négativité blanchotienne, hein, qui, à ce moment-là, est une des figurations hein, très autoritaires hein, de ce que la théorie littéraire hein, envisage quand elle parle de négativité. Alors, bien sûr, il y aura aussi plus loin le neutre de Barthes, hein, mais je pense que ce n'est pas de ça qu'il s'agit ici, hein, c'est vraiment la question de la littérature hein, comme opération de négativité. Troisième concept clé de la révolution du langage poétique, et quand je dis des concepts clés, hein, je veux dire qu'ils sont aussi des concepts dont il me semble qu'on pourrait les réactiver aujourd'hui hein, pour penser les processus à l'œuvre dans le poème. Évidemment, je ne le dis pas parce que ça serait trop vulgaire, mais je le dis pour que ce soit clair. Hein, ces concepts, hein, c'est des concepts qui sont aux antipodes de la philosophie du langage ordinaire. C'est-à-dire, signifiance, négativité pratique, hein, c'est l'anti-Cavel. Kristeva Cavel. Alors la notion de pratique, elle est au centre de la révolution du langage poétique, et évidemment, hein, elle renvoie, il faut le dire tout de suite, hein, à deux niveaux que Julia essaie d'articuler. Il y a d'abord hein, le texte comme pratique signifiante de négativité, donc conséquence des deux concepts précédents. Donc quelque chose qu'on pourrait appeler hein, une pratique discursive ou intradiscursive. Mais évidemment, et c'est aussi ce qui donne la fougue du livre, hein, la pratique, elle est aussi extradiscursive, et donc politique, et donc révolutionnaire. Les textes écrits par Julia à cette époque hein, se réclament véritablement, hein, pas simplement d'une révolution du langage poétique, hein, mais d'une véritable révolution hein, politique. Hein, et les allusions à Lénine, d'ailleurs, ne manquent pas. Et donc, ici encore, hein, si on voulait faire une histoire rapprochée, hein, il faudrait rapprocher ces préoccupations de Julia vraiment de l'archéologie du savoir. C'est-à-dire hein, de la fin de la cinquième partie de l'archéologie du savoir dans laquelle Foucault, hein, après avoir constitué ce qu'il appelle hein, les couches discursives et qui exclut complètement le poème, hein, s'interroge sur la relation, alors là c'est dans un débat avec Althusser, hein, sur la relation entre l'intradiscursif et l'extradiscursif, hein, parce qu'il dit, bon, bah, vous allez me dire, c'est bien beau ce que vous faites, mais qu'est-ce qu'on va faire dans la rue avec ça hein, c'est, bon. Et donc l'effort de Julia et celui de Foucault me semble à rapprocher. Donc ça c'est les concepts, signifiance, négativité, pratique. Et puis il y a des règles. Il y a des règles pour, disons, mettre en œuvre dans la lecture et dans l'interprétation, et sans doute aussi dans l'écriture des textes, hein, des règles qui sont pensées dans l'horizon du transformationnalisme et de la linguistique générative de Chomsky, hein, comme des règles de production. Alors, il y a une règle qui est très connue, donc sur laquelle je reviens pas, même si c'est une invention conceptuelle tout à fait considérable, hein, comme règle de production, hein, c'est le rapport génotexte-phénotexte, hein, c'est-à-dire la règle, le passage. Alors là, justement, hein, la sémanalyse est à son aise, puisque ce qu'elle étudie, c'est précisément hein, la puissance de la signifiance hein, comme processus, donc elle est à son aise. Mais je voudrais pointer des règles qui me semblent, je dirais, plus précisément applicable à la réflexion contemporaine. Deuxième règle, donc, après celle du génotexte et du phénotexte, il me semble que la sémanalyse permet de surmonter ce que j'appellerais hein, l'aporie du nom, hein, du nom comme nom propre, c'est-à-dire le lieu, hein, justement, où sémiotique et sémantique se heurtent chez Benveniste. Alors, comment est-ce que la sémanalyse surmonte l'aporie du nom? Vous savez que tous les philosophes que vous lisez, que nous lisons, etc., hein, depuis Platon, sont obsédés par l'idée que le poète, c'est quelqu'un qui donne des noms aux choses, pour citer une formule célèbre. Si vous prenez, évidemment, des philosophes comme Heidegger, hein, ce point est bien connu, mais c'est aussi le cas chez Benjamin, hein, et c'est aussi le cas chez Badiou, etc. Alors, comment est-ce qu'on peut surmonter l'aporie du nom? Julia le fait de plusieurs manières et il me semble que chacune de ces manières est tout à fait passionnante. D'abord, en descendant au-dessous du nom. Au-dessous du nom, c'est d'abord, et dans un voisinage intéressant évidemment avec Lacan, au niveau de la lettre. Et c'est tout le travail, tout à fait, à mon avis, réactualisable, hein, de Julia sur les paragrammes. Hein, son rapport au paragramme. Mais le paragramme, qu'est-ce que c'est ? On voit ce que c'est positivement, mais il faut rappeler ce que c'est négativement. C'est une déconstruction du nom par la lettre. C'est-à-dire, c'est aller en deçà de la nomination. Donc, dans la couche, hein, de la signifiance, comme lieu, justement, de construction de la pulsion. Ici, Julia, comme son amie d'ailleurs Jacqueline Risset, hein, est une des premières à avoir été sensible à l'invention que Starobinsky avait fait des manuscrits de Saussure qui sont à la BGE, là, les anagrammes. Hein. Mais tandis que Jacqueline Risset en avait donné une version plutôt historique, hein, vous vous en donnez une version sémiotique, c'est-à-dire hein, une manière de repenser précisément le rapport de la lettre au nom, hein, en montrant hein, comment... en suivant Starobinsky lisant Saussure hein, et en faisant vôtre avec toute autre portée cet argument, hein, en montrant comment la lettre hein, est une instance, bon là je parle comme Lacan, hein, qui est une instance plus puissante peut-être que l'instance même de la nomination. Évidemment, vous étiez aidé ici hein, par Mallarmé, qui est évidemment le penseur de la lettre, hein, le poète penseur de la lettre, qui défait même le poème du nom, hein, baudelairien, à la faveur d'un poème de la lettre. Mais en dessous du nom, et peut-être même en deçà de la lettre, ça c'est des pages tout à fait extraordinaires, hein, il y a le rythme. Le rythme comme lieu pulsionnel, vous dites hein, phonique et sémantique, c'est-à-dire un lieu où le langage se constitue comme puissance pré-sémantique. Et alors, évidemment, il faut une théorie de la signifiance qui n'est pas une sémantique pour rendre compte de ça, puisque ce n'est pas sémantisé, puisque ce n'est pas du nom. Et donc, là, vous vous appuyez et vous donnez une puissance très grande hein, aux travaux de Ivan Fonagy, hein, et qui a, c'est pas un hasard, me semble-t-il, hein, aussi influencé Jacqueline Risset, hein, et notamment dans sa traduction de Dante. Hein, elle dit qu'elle a été à la recherche, justement, de ces rythmes fondamentaux. Alors, la lettre d'un côté et le rythme de l'autre, comme lieu donc de l'infra-sémantique hein, contre l'obsession philosophique de la nomination, du nom juste, hein, du poème, comme vous dites d'ailleurs, hein, le nomothète, le logothète, hein, vous dites c'est les mêmes gestes. Et vous vous livrez, hein, dans un passage qui là aussi hein, mériterait qu'on s'y attarde davantage que je ne le fais en l'évoquant, hein, à une analyse de prose de Mallarmé, hein, selon les séquences différentielles hein, de phonagie, comme des traits de la phonologie différentielle pulsionnelle. Donc ces règles me paraissent centrales, hein, et elles me paraissent relancer la réflexion hein, dans une toute autre direction hein, que les penseurs de la poésie de l'époque. Hein. Si on compare, hein, c'est ça qu'il faudrait faire, hein, structure de langage poétique, aux grands livres de poétique qui sortent à ce moment-là, hein, je pense à Cohen, par exemple, hein, ou à Richard, hein, on est dans un univers conceptuel complètement différent hein, et avec des enjeux théoriques tout autres. Troisième règle, la supériorité du syntaxique sur le sémantique. Ici, vous détournez, on peut dire ça comme ça, si vous l'acceptez, hein, vous détournez la linguistique générative, hein, la chomskyen, on pourrait dire, hein, pour proposer hein, une théorie de la composition poétique comme, je vous cite, hein, transformation d'enchaînement. Et donc là, c'est plus prose de Mallarmé qui vous sert de guide, hein, c'est le coup de dé, hein, et vous allez chercher dans le coup de dé la révolution du langage poétique non sémantique, compositionnel, hein, qui est l'invention d'une nouvelle manière de faire des poèmes, non pas à partir de la métrique et de ses résonances pulsionnelles, hein, mais à partir du syntaxique. Ça aussi, hein, à mon avis, c'est quelque chose qui n'est pas du tout derrière nous, hein, mais qui est devant nous. Hein, parce que, en fait, c'est une manière de se demander comment aujourd'hui, est-ce que, pour le dire autrement, est-ce qu'aujourd'hui, hein, les poètes n'ont le choix qu'entre le vers libre sympathique mais assez essoufflé, hein, et le retour bille en tête, hein, aux formes fixes, comme le pratiquent beaucoup d'ex-oulipiens? Alors non, si on va du côté d'une théorie des enchaînements et de transformation de la composition, hein, et donc de surimposition du vers sur la syntaxe, même libre, eh ben on peut, à mon avis, penser autrement le travail du poète. Et puis, et là, dernière règle, donc la 4, hein, après donc phénotexte, génotexte, l'en-deçà de du mot, la lettre et la pulsion phonique, hein, phonagie, la question de la composition, dernière règle, hein, les transformations de l'espace interlocutoire. Et ce que vous montrez, notamment à partir de l'autre amont, hein, je renvoie ici aux pages 324 et suivantes, hein, de la révolution du langage poétique, hein, c'est que le poème est le lieu d'un nouvel espace interlocutoire. Et je sais, hein, Julia, je ne veux pas du tout vous blesser en disant ça, hein, je sais votre fidélité à l'homme et à l'œuvre de Benveniste, hein, mais ce n'est pas du tout du Benveniste, c'est complètement autre chose. C'est complètement autre chose parce que la sémanalyse, hein, ne repose pas sur, et vous le dites très bien d'ailleurs en prenant vos distances à l'égard de Husserl, hein, ne repose pas sur ce que Ricoeur avait bien vu à propos de Benveniste, hein, c'est-à-dire une phénoménologie de l'espace de l'énonciation, où « je » et « tu », hein, sont premiers. Non, l'espace de l'interlocution chez l'autre amont, et vous le montrez de manière très précise, hein, et philologique à propos du jeu du « tu » et du « il », hein, comment un « tu » devient un « il » et un « il » devient un « tu », dans les chants et dans les poésies, hein, sont l'objet, hein, d'un tout autre travail énonciatif, hein, que ce que Benveniste décrivait à peu près au même moment, enfin dans la reprise en tout cas des articles dans les problèmes de linguistique générale. Trois concepts, signifiance, négativité, pratique, quatre règles, c'est peu, hein, pour rendre compte de ce massif qu'est la révolution du langage poétique, mais ce sont en tout cas, hein, des concepts et des règles d'interprétation et aussi de théorie du langage poétique, hein, qui ne me semblent pas du tout appartenir, hein, à l'archéologie, hein, de notre discipline, mais qui conservent, hein, ce qu'on pourrait appeler, comme dit parfois Lévi-Strauss à propos des mythes, hein, un potentiel, hein, de transformation. Et je crois qu'il ne me reste même pas de temps, donc je vais... 2 minutes, je vais juste dire 2 choses pour finir. Donc, comme je le disais, hein, le parallèle qu'il faut instruire, c'est celui de la sémanalyse et de la grammatologie. C'est-à-dire, hein, et d'ailleurs, Julia cite beaucoup la voix et le phénomène, un peu la grammatologie pour des questions de simplement chronologie. Hein, bon. Ce qu'il faut dire, me semble-t-il, c'est que de la même manière que Derrida se dit insatisfait de la doctrine de la signification, c'est-à-dire de la différence entre indication et expression, dans les recherches logiques de Husserl, parce que, dit-il, Husserl se ment à lui-même, c'est ça la déconstruction, il se ment à lui-même, puisqu'il prétend défendre la parole vive, et en fait il place toujours une archi-écriture avant cette parole, de la même, et donc qu'est-ce qu'il fait, Derrida, il essaie de sortir réflexion sur le langage de la métaphysique, hein, de la même manière et avec des instruments qui vous sont propres et qui, je dois dire, me sont plus proches à cause du poème, vous essayez, hein, de faire échapper la réflexion sur le langage de votre époque, hein, à un fixisme, à une métaphysique sous-jacente, hein, à travers justement les outils que j'ai évoqués, les concepts et les règles de transformation. Alors, dans la version écrite de cet exposé, qui, comme vous le voyez, n'est pas très court, hein, j'ai instruit de manière plus précise ce parallèle, hein, donc on pourra en parler dans les questions. Hein. Ce qui est évidemment intéressant dans le rapprochement, hein, c'est de voir ce que Derrida lui-même fait de la voix à cette époque, et du souffle et du rythme, hein, notamment comparer, hein, je me suis amusé à le faire, hein, vos deux artaux, hein, parce que vous avez l'une et l'autre, hein, vos artaux. Alors, comme je le disais, hein, ce qui, j'avais écrit, hein, une manière de clausule hein, pour montrer comment, par exemple, hein, on pourrait aujourd'hui reprendre les analyses du langage poétique. Je dis juste un mot. Hein. C'est en reprenant notamment la dernière partie, hein, les deux dernières parties tout à fait extraordinaires hein, sur le rapport à l'État et au paternel, hein, à partir hein, d'une question qu'on peut résumer de manière très simple, hein, qui est celle de ce qu'on pourrait appeler les transactions pronominales. C'est-à-dire d'étudier, à partir de la révolution du langage poétique, hein, la poésie comme un lieu hein, de transactions pronominales, et non pas comme un lieu de simple identification pronominale. Hein, c'est-à-dire comme si lire un poème de Baudelaire, ça consistait à s'identifier hein, au jeu du poème ou au tu du poème, avec la différence sexuelle, en faisant tourner les places. Hein, mais justement, et au contraire, en se demandant si le poème hein, n'est pas un lieu où la transaction pronominale interdit, tout simplement, hein, les identifications. Si c'est le cas, il me semble, et à la suite de Julia, hein, que le poème hein, invite, alors c'est peut-être une discussion aussi avec Philippe, parce que Philippe, dans un article que j'ai lu récemment et qui est cité dans le Reader, dit que vous êtes dès le début orienté vers la prose, hein, à cause de la première thèse. Hein. Moi, je trouve qu'il y a une tension entre le poème et la prose, hein, dans vos sources d'inspiration. Pourquoi ? Parce que il me semble que toute enquête sur la subjectivité lyrique doit partir, comme vous le montrez, hein, d'une performativité singulière de la transaction poétique pronominale première. Le poème est un dispositif qui ne cesse de transformer le jeu de l'énonciation en tu et le tu en jeu dans une, disons, transaction qui n'est pas la réciprocité benvénistienne. Cela n'arrive pas dans l'énonciation du langage ordinaire, mais cela arrive dans le poème. Et c'est aussi, d'ailleurs, hein, le site des adresses les plus bouleversantes des poèmes, mais aussi hein, de ses dissociations les plus folles. Et si la poésie, depuis Mallarmé, comme vous le montrez, intrigue ou inquiète le public, c'est qu'elle se livre à des transactions pronominales qui interdisent tout simplement, au nom de leur signifiance et de leur négativité, tout processus d'identification immédiat. On voudrait qu'apprendre à dire « je » soit l'horizon de la subjectivation, mais la littérature, et en premier lieu le poème, nous enseigne que dire « je » n'implique pas seulement des opérations de désintrication, comme vos œuvres psychanalytiques ne cessent de nous le rappeler, mais d'identification brouillée, par leur impossibilité même. On pourrait citer ici, parce qu'elle est formidable, hein, une lettre de Keats à Woodhouse, hein, d'octobre 18. Keats explique sans embâge, je le cite, hein, que le jeu poétique n'est pas un jeu parce qu'il n'est pas identique à soi. Je le cite. En ce qui concerne le caractère poétique lui-même, j'entends dans l'espace à laquelle, pour autant que je relève d'aucune, j'appartiens, il n'est pas lui-même, le poète n'a pas de moi. Il est tout et rien, il n'a pas de caractère, it is not itself, it has no self. Penser ces désintrications poétiques à partir des transactions pronominales, hein, c'est, me semble-t-il, hein, un des cadeaux de la révolution du langage poétique. Merci beaucoup.